Maurice. Oui, ça a l'air de marcher. C'est tout nouveau. Bon, je lis mes questions. Hein.
Oui.
Bon, pour vous présenter, Alain de Benoît, aux lecteurs flamands et néerlandais qui ne vous connaîtraient pas, je voudrais commencer par une expression qu'au contraire, ils connaissent tous, à tel point qu'on ne la traduit plus, celle de la pensée unique.
Ouais.
Dans votre livre « Mémoire vive », j'ai appris que c'est vous qui l'avez forgé en 63.
Un peu plus tard, je crois.
Il y a donc... Non, c'est marqué là...
63.
Bon. Oui, j'ai dit bon, il y a un demi-siècle.
Mais je crois que j'ai été le premier à l'utiliser aussi.
Oui, oui. Et maintenant, on connaît depuis plusieurs années le terme contigu « politically correct ».
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous avez le sentiment que nos hommes politiques, nos journaux, nos radios, nos télévisions, nos universités même, vont de mal en pire sur ce point ?
Oui, ça, je crois que c'est évident. Il ne faut pas oublier que le politically correct, comme son nom l'indique, vient de l'autre côté de l'Atlantique. C'est une mode américaine qui a...
Ouais.
Qui a fait école en Europe, et tout particulièrement dans le nord de l'Europe. Je pense que le nord de l'Europe est beaucoup plus politiquement correct que les pays latins qui sont instinctivement plus rebelles. Mais enfin, il faudrait voir, évidemment, dans chaque pays. Politiquement correct et pensée unique, ça marche souvent ensemble. C'est pas exactement la même chose, hein.
Non.
Parce que politiquement correct, à l'origine, c'est une espèce de puritanisme subjectiviste dans lequel il faut éviter toute formulation qui pourrait être considérée comme gênante, désagréable, humiliante vis-à-vis de tel ou tel, et puis à la fin ça a pris des proportions totalement délirantes.
Ouais.
La pensée unique, c'est une autre formule pour parler de l'idéologie dominante. Vous pourriez avoir une idéologie dominante sans le politiquement correct. Mais c'est vrai que le politiquement correct s'est intégré dans l'idéologie dominante. Donc les deux fonctionnent plus ou moins ensemble aujourd'hui sans que ce soit exactement la même chose. Mais sinon, oui, pour répondre à votre question, oui, ça ne cesse de progresser. Je dirais même que on croit toujours qu'on a atteint le fond et on réinvente toujours des choses extravagantes. En France, on a mille exemples. Un homme avec une grosse barbe dans une émission de télévision, on lui dit « Monsieur », il se lève et il dit « Mais qu'est-ce qui vous autorise à me considérer que je suis un homme ?» Moi, je me considère comme une femme. Ah bon, très bien. Ou la campagne féministe pour les pansements, pour qu'il y ait des pansements de couleurs adaptées, et pas des couleurs roses, parce que c'est du racisme, c'est des pansements racistes, etc. Enfin, on va toujours... y compris les tableaux, les pièces de théâtre antiracistes qui sont interdits parce que l'auteur est un blanc et qu'un blanc ne peut pas être antiraciste. Donc on arrive à des situations qui sont totalement grotesques. Heureusement d'ailleurs, parce qu'elles sont tellement grotesques que l'immense majorité des gens trouvent ça ridicule, ça les fait rire à la limite, ou ça les ennuie et personne n'en tient compte. Mais c'est vrai que ça se répand de plus en plus.
Ouais. Et bien que ça doit mener à des contradictions, même pour les gens qui emploient volontiers.
Bien sûr, mais vous avez des gens, maintenant des gens qui refusent, quand ils ont un enfant, de dire que c'est un garçon ou une fille. C'est lui qui choisira.
Hein, ouais.
C'est l'idée en fait que on est déterminé, même potentiellement, en rien, et que tout est une affaire de choix, sans qu'il y ait autre chose en amont de soi-même. Donc on se construit et on se définit à partir de rien. Ce qui, à l'échelle d'une société, veut dire que le passé n'a rien à nous dire.
Non.
Le passé n'a rien à nous dire. Nous décidons par nous-mêmes de ce que nous allons faire, etc.
Ouais.
Par le processus du contrat social, de l'échange marchand, etc. Donc ça a l'air d'une anecdote, et en réalité, ça implique toute une conception du monde.
Ouais, mais se définir soi-même, c'est une tâche très lourde.
Le problème d'identité est de toute façon extrêmement difficile.
Ouais.
L'identité, moi j'ai publié un livre sur l'identité dans lequel je dis que l'identité ne devient problématique que lorsqu'elle a disparu ou qu'elle est menacée. Quand les gens ont une identité, personne ne s'interroge sur son identité.
Non, hein.
On s'interroge sur son identité parce qu'on est dans une époque où il n'y a plus de repères. On finit par plus savoir que faire, plus savoir ce qu'on est. Et par conséquent, voilà. Mais l'identité, en réalité, c'est toujours très très complexe. L'identité a plusieurs facettes. Hein. Chacun d'entre nous a une identité nationale, une identité linguistique, une identité religieuse, une identité sexuelle, une identité professionnelle, et toutes ces identités cohabitent plus ou moins bien, et nous n'y accordons sans doute pas la même importance.
Non.
Il y a des facettes qui pour nous sont plus décisives que d'autres. Hein, voilà.
Oui, l'identité a été définie par Anne Morelli comme une pâte feuilletée.
Ouais. Non, c'est une chose qui me frappe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent identitaires aujourd'hui. Bien entendu, ils veulent dire qu'ils tiennent à l'identité, ils sont solidaires de l'identité de leur pays, ou de leur culture, ou de leur civilisation, ce que je trouve très bien. Mais ils ne se rendent pas toujours compte que la notion d'identité est une notion très très complexe, hein, beaucoup plus complexe qu'on le croit. Mais bon, c'est une saine réaction de dire « j'ai une identité » contre ceux qui ne veulent pas en avoir, bien sûr.
Ouais. Alors, restons un peu plus dans l'actualité, après l'attentat de la préfecture, Emmanuel Macron a prononcé un mot problématique, celui de « vigilance ». Il demandait la vigilance des citoyens. Bon, cela semble être une abdication, puisque les citoyens devraient eux-mêmes résoudre les problèmes qui normalement sont considérés comme la chasse gardée des services de renseignement ou de police ou de l'armée. Et l'avocat Régis de Castelnau, que vous connaissez sans doute, trouvait ce terme détestable.
Déjà, il faut dire une chose, c'est que le mot « vigilance » est très utilisé dans le langage de la pensée unique. En général, il faut être vigilant contre le retour des années 30, il faut être vigilant contre la remontée du racisme, il faut être vigilant devant la résurgence du fascisme, etc. C'est un mot, une sorte de mantra. Hein. Bon. Dans le contexte de l'attentat de la préfecture de police, c'est effectivement un petit peu différent, mais c'est un mot qui ne veut rien dire, parce que quand on dit aux gens, vous savez, il faut être vigilant, bon, les gens ils vivent normalement.
Oui, mais ça crée une suspicion vis-à-vis
bien sûr. Oui, mais bien sûr, bien sûr. On entre dans une société du soupçon généralisé. Ça, je crois que c'est très important de le dire. Et on entre en même temps dans une société du déni. Vous savez, Peggy disait « il faut voir ce que l'on voit ». Et aujourd'hui, on est dans un monde où les gens ne veulent pas voir ce qu'ils voient.
Bah, donc, les gens le voient, mais...
Oui, mais enfin, je veux dire,
il y en a d'autres qui ne le voient pas.
Les gens, l'oligarchie, les médias, et l'attentat de la préfecture de police est un très bon exemple. Hein, parce que, qu'est-ce qui a été dit tout de suite, c'est tout à fait extraordinaire, un type est devenu fou, il a tué 4 personnes, tout de suite, ça n'a rien à voir avec l'islam, rien du tout. D'ailleurs, c'était un pauvre type, un peu handicapé, il était sourd, il était martiniquais, et puis il s'est engueulé avec sa femme, Bon, puis on dit, oui, mais attention, alors il était quand même musulman. Ah, oui, mais il s'était converti très récemment. Ah oui, mais on aperçoit qu'il s'est converti, en fait, il y a 15 ans. Ah oui, il y a 15 ans, mais enfin, écoutez, c'est pas pour ça que ça en fait un terroriste. Ah ben non, mais il avait dit que l'attentat du Bataclan ou de Charlie Hebdo, c'était très bien. Oui, mais vous savez, ça a été rapporté par des gens. Bon, toujours,
Oui,
voilà.
on va toujours
Quand il y a eu l'incendie
un pas plus loin.
quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame de Paris, dont les causes ne sont toujours pas connues,
Non.
la première chose qu'on a dit tout de suite, c'est un accident.
Oui.
Or, il était impossible de savoir quelle cause c'était, parce que l'église était encore en train de flamber. Aucune commission d'enquête n'avait pu aller voir s'il y avait des traces de mise à feu, s'il y avait que ça. Il dit, non, c'est un accident, ça n'a rien à voir avec le terrorisme, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc l'islam n'a rien à voir avec l'islamisme, l'islamisme n'a rien à voir avec le terrorisme. Et les terroristes, en général, sont des fous, c'est des gens
Dérangé.
déséquilibrés, voilà. C'est des déséquilibrés. Donc c'est extraordinaire le nombre de déséquilibrés, d'ailleurs, qu'il y a maintenant. Donc c'est le déni. C'est le déni, et c'est le déni dans tous les domaines. Déni vis-à-vis des dérèglements climatiques, le déni vis-à-vis du déclin scolaire, le déni vis-à-vis de la montée du chômage, le déni, enfin bon, etc., etc. On est dans la société du déni. Et ça, c'est évidemment quelque chose d'assez typique, parce qu'il y a une époque, il y avait des problèmes, on essayait de résoudre les problèmes. Aujourd'hui, on essaye de dire qu'il n'y a pas de problème. L'immigration, il n'y a pas de problème. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des problèmes? Il y a toujours eu de l'immigration. Il n'y en a pas plus aujourd'hui. Il n'y a pas plus d'étrangers aujourd'hui que, il y a 30 ans. Ben oui, parce qu'entre-temps, on a naturalisé tout le monde. Hein. Donc, etc., etc. C'est la société du déni.
Mais Macron, est-ce qu'il se rendrait compte que un mot comme vigilance, ça incite
Bah, Macron,
peut-être à des émeutes
bah,
même.
Macron est connu pour avoir parlé un peu vite ou employé des mots qui n'étaient pas très appropriés à plusieurs reprises. Hein. En plus, c'est toujours son système en même temps. Hein. Il se rend bien compte qu'il y a les sondages, quand les sondages vous dites que 70% des Français pensent que. Sont contre le voile sur la voie publique, pensent qu'il y a trop d'immigrés, etc. Bon, il le sait bien. Donc, il ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, mais il essaye toujours de balancer, parce qu'il sait bien que il va aussi, s'il prend une position un peu plus dure, on va lui reprocher de s'aligner sur Marine Le Pen, on va lui reprocher d'avoir trahi des engagements. Il y a tous les lobbies favorables aux migrants. C'est pas simple, hein, évidemment, dans une société actuelle. Donc, il essaye de louvoyer, mais le résultat, quand on louvoie, c'est qu'on finit par mécontenter tout le monde.
Alors, vous avez toujours refusé de diaboliser le Front National ou Rassemblement National, pour lequel pourtant vous ne votez pas, d'après ce que je lis, et vous considérez la lutte antifa comme grotesque, enfantine peut-être.
Ouais,
Mais quelles sont précisément vos réserves vis-à-vis du parti de Marine Le Pen?
Je n'ai pas de réserve fondamentale, simplement, premièrement, j'ai toujours essayé de me situer par rapport à des idées et pas par rapport à des partis politiques, parce que je ne suis pas moi-même un acteur de la vie politique, je suis un observateur, mais pas un acteur. Donc, porter des jugements sur les partis, à la limite, je trouve que c'est pas très intéressant. Dans le cas du Front National devenu Rassemblement National, il faut bien voir que ce parti a beaucoup évolué. Il a passé par des positions libérales, puis antilibérales, puis pour la sortie de l'euro et de l'Europe, puis contre, bon, il y a eu pas mal d'évolutions, donc on ne peut pas être d'accord avec toutes les évolutions, on est forcément d'accord éventuellement à tel moment et pas à tel autre. Bon, donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris position là-dessus. Moi, mon rôle est plus en amont, si vous voulez, de voir, d'étudier l'époque dans laquelle nous sommes, d'identifier le moment historique que nous vivons, d'essayer de voir quels sont les grands déplacements d'opinion, les grandes transformations du paysage politique et idéologique, et de porter le moins d'intérêt possible à ce qu'on appelle la petite politique politicienne, hein, tout simplement.
Ce sont des changements qui ne sont pas facilement repérables.
Ben, c'est un peu le travail de l'intellectuel de les repérer. Ouais. Hein. Et on commence quand même à les repérer aujourd'hui, même si dans une époque de transition, c'est toujours assez difficile. On voit bien qu'il y a une radicalisation de tous les côtés. On voit bien qu'il y a l'accélération de certains processus de désagrégation sociale. On voit bien qu'il y a un effondrement des partis traditionnels au profit de ce qu'on appelle les populismes. On voit bien toutes ces choses-là quand même. Donc il faut en être conscient.
Oui, et les voir d'abord.
Et les voir, oui. Il faut voir ce qu'on voit. Oui.
Ouais. Bon, Alain Finkielkraut a dit hier, je crois, chez Elisabeth Lévy, parce que je suis l'émission L'Esprit de l'Escalier.
L'Esprit de l'Escalier, oui, je la regarde aussi.
Il a dit, il se produit sous nos yeux une islamisation progressive de portions toujours plus importantes du territoire français. Ouais. Il est impératif de réagir politiquement, socialement et, s'il le faut, par des moyens du droit. Ouais. Oui, et sans doute, pensait-il, et peut-être même d'autres moyens. Hein? Mais qu'est-ce que vous en pensez de cette évaluation?
Bon, les généralisations ont toujours leurs limites. Quand Finkielkraut dit qu'il y a une expansion de l'islamisation, oui, c'est vrai. C'est vrai. En quoi est-ce qu'elle consiste exactement? Comment est-ce qu'on la définit? Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de mosquées? Est-ce qu'il y a plus de voiles dans les rues? C'est vrai aussi. Ça dépend des endroits, bien entendu. Hein, parce que l'immigration est très inégalement distribuée dans toute la France. Hein.
Comme ici, d'ailleurs.
Comme en France, vous avez ce fameux département de banlieue, le 9-3, le 93, hein, qui est un département maintenant où 80% des naissances sont des naissances extra-européennes. Hein. Ouais. Donc, c'est là, une concentration extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ça? Ça, c'est un autre problème, parce que quand Finkielkraut dit les moyens du droit, le problème, c'est que malheureusement, les juges ont tendance à favoriser, à interdire les mesures qui essayent de ralentir l'immigration, de lutter. Hein. Vous avez le rôle de l'idéologie des droits de l'homme qui joue un truc, parce que le débat sur le voile, c'est vraiment ça. Hein. Il y a ceux qui considèrent que le voile, c'est un geste d'affirmation communautariste, militant. D'autres qui disent, mais non, c'est purement religieux. Et puis ceux qui disent, mais on a le droit de s'habiller comme on veut, c'est une question de droit de l'homme. Bon. Alors, tous ces débats sont empoisonnés parce que les mêmes arguments, dans un sens ou dans l'autre, reviennent en permanence. Et finalement, tout ça ne change rien sur le fond, c'est-à-dire que les grandes tendances de fond se poursuivent, l'immigration se poursuit et même s'accélère, l'islamisation sans doute se poursuit et s'accélère au moins dans un certain nombre d'endroits, de banlieues, de régions, etc. Et moi je ne vois pas très bien ce que l'on peut faire si l'on n'envisage pas un bouleversement assez général. Parce que sans ça, on agit toujours à la marge, en modifiant des petites législations. Alors on dit il y a des droits d'asile, il y a des demandes de droits d'asile. Alors on va examiner les demandes plus rapidement ou moins rapidement. Comme de toute façon, les gens qui demandent l'asile et qui se le voient refuser ne sont pas expulsés, donc ils s'installent, c'est exactement... On est dans le vide, hein, est dans le vide. Hein. Ouais. C'est ça d'ailleurs qui est assez dramatique.
Hein. Oui, certainement. Bon, plus dans le sens de votre dernier livre, vous dites que, quelque part, que j'ai toujours combattu l'idée jacobine d'une France une et indivisible. J'ai de la sympathie pour l'Europe des régions, même si je crois que les vieilles nations doivent trouver leur place.
Oui.
Dès lors, comment voyez-vous les différents mouvements autonomistes, indépendantistes, en Flandre, en Catalogne, Écosse, et le Brexit?
Ma réponse de principe, si vous voulez, le Brexit est un peu différent. Ma réponse de principe, c'est que je suis favorable à tous les mouvements, soulèvements de peuples, de recherche d'autonomie, etc. Évidemment, après, il y a beaucoup d'équivoques qui commencent. Est-ce que l'autonomie, c'est la même chose que l'indépendance, par exemple? Ça, c'est un problème. Dans certains cas, oui, dans d'autres, non. Est-ce que la légitimité de ces mouvements est toujours la même? Non, sans doute pas. Je veux dire que lorsqu'on est devant des minorités brimées, qui n'ont pas le droit de s'exprimer, qui n'ont pas le droit d'utiliser leur langue ou leur culture, là, les choses ne font pas problème. Maintenant, si vous prenez la Catalogne est un cas un peu différent. Les Catalans ne sont pas du tout en position subordonnée. Ils sont très dominants en Catalogne. On entend, moi je vais en Catalogne, j'entends presque jamais l'espagnol. Je n'entends que du catalan, tous les livres sont en catalan, tous les cours à l'école sont en catalan. Les Bretons en France ou les Corses rêveraient d'avoir le centième de ce qu'ont les Catalans. Donc je veux dire que les situations ne sont pas toujours exactement les mêmes. Mais il y a une position de principe. Dans la fameuse classique trilogie du peuple, de l'État et de la nation, je mets les peuples en premier.
Oui.
Voilà. Je n'aime pas le jacobinisme parce que je trouve qu'il a appauvri la France, que l'unité française s'est faite au détriment des cultures régionales, ça a entraîné une centralisation dont nous souffrons manifestement, et donc je suis en désaccord avec les nationalistes ou souverainistes qui sont hostiles à toutes les minorités. Ma position de principe, c'est que les peuples doivent pouvoir décider pour eux-mêmes. Si on prend les Catalans, là aussi c'est très difficile, parce que le rapport de force aujourd'hui, c'est à peu près 1-1. Vous avez à peu près la moitié des Catalans qui veulent être indépendants, la moitié des Catalans qui ne veulent pas l'être. Donc,
ça pourrait changer avec les peines de prison de 13 ans.
Bien sûr que ça peut changer. Le problème, c'est que pour l'instant, la situation est très tendue, très violente même, mais c'est très partagé. S'il y avait 80% de partisans de l'indépendance, ce serait plus facile, mais ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, moi, ma position, il y a d'abord une position de principe. Je suis pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je pense qu'un pays est riche de ses composantes et ne doit pas chercher à les appauvrir ou à les faire disparaître au profit d'un modèle unitaire ou central. Donc, je soutiens les Bretons, les Corses, comme je soutiens les Flamands, etc. Les Normands, oui, alors les Normands ne demandent pas beaucoup à être autonomes, mais enfin, oui, j'aime bien, je fais partie du mouvement normand, d'ailleurs, c'est le seul parti dont je fasse, le seul mouvement dont je fasse partie. Mais je suis conscient en même temps qu'il y a une position de principe théorique et que sur place, ce n'est pas toujours la même chose qu'au Cachemire, par exemple, c'est sans doute un peu plus compliqué, que la Crimée, c'est encore un peu plus compliqué, parce qu'il y a ceux qui veulent faire sécession, puis il y a ceux qui, au contraire, veulent être rattachés. Alors le Brexit, le Royaume-Uni quitte l'Europe, sans doute pour se rapprocher de l'Amérique, mais il va y avoir des problèmes, parce que les Écossais, eux, ne veulent pas quitter l'Europe. Alors, est-ce que les Écossais vont proclamer leur indépendance pour quitter l'Angleterre? Qu'est-ce qui va se passer en Irlande, où là aussi on s'attend à une reprise des tensions ou des violences en liaison avec les conséquences du Brexit? Donc, voilà. Mais c'est vrai, je suis un anti-jacobin. Je suis dans un modèle idéal, je suis plus fédéraliste. Et c'est vrai qu'en même temps, même si je suis hostile au modèle de l'État-nation, je vois bien aussi qu'il y a des nations très anciennes qui sont là depuis longtemps, elles ne vont pas disparaître, c'est évident. Hein. Mmh. La France ne va pas disparaître, l'Espagne ne va pas disparaître, d'autant plus qu'en France, vous avez des cultures bien vivante, bien minoritaire, une grande partie de la France qui, elle, n'est pas du tout dans ce créneau. Donc, je ne crois pas qu'on soit devant une alternative, les nations ou les régions. Hein. On est plutôt devant une alternative, quel genre de nation ? Les nations organisées d'un point de vue fédéral ou les nations organisées d'un point de vue jacobin ? C'est plus ça le problème.
Oui. Mmh. En 81, vous avez dénoncé la conquête du monde par la logique du marché.
Oui.
Et vous avez désigné les États-Unis et l'individualisme oui. libéral comme l'ennemi principal. Oui. Je ne dois pas dire ça, mais moi, j'approuve.
Oui. Vous le dites, c'était en 81. J'avais un certain mérite, parce qu'à ce moment-là, le système soviétique était toujours présent, n'est-ce pas ?
Oui.
Et les gens de droite, en général, c'est d'abord l'anticommunisme, côte à côte avec les libéraux. Et moi, je voyais bien que le système soviétique n'était certainement pas idéal, mais que l'alternative qu'on nous proposait, on allait vite se rendre compte que ce n'était pas non plus idéal. Et finalement, c'est ce qui s'est passé, à commencer d'ailleurs par les peuples des pays d'Europe de l'Est, ou d'Europe centrale et orientale, qui ont été évidemment très contents d'être libérés de la domination soviétique, mais qui ont très vite réalisé qu'ils se faisaient des illusions sur le paradis libéral occidental et que beaucoup d'entre eux, comme conséquence que maintenant, certains d'entre eux, en Allemagne de l'Est, en Russie, qui regrettent le temps du communisme parce qu'ils sont tout en bas de l'échelle sociale, et finalement, à cette époque-là, ils vivaient mieux qu'aujourd'hui, paradoxalement.
Oui, je dois dire que j'ai une amie bulgare oui. qui vit à Sofia, qui était, au moins son mari décédé, était un grand membre du Parti communiste. Oui. Donc, pendant le communisme, il n'avait pas de problème. Hein.
Oui, oui.
Et maintenant, elle me montre Sofia, elle dit... Pourtant, elle a une grande entreprise, donc après le communisme, elle n'a pas hésité à devenir capitaliste, disons. Hein. Mais elle dit, c'était mieux avant. Il n'y avait pas de mendiants dans les rues. Et moi,
tout le monde avait un logement, il n'y avait pas de mendiants, il y avait moins de criminalité, les gens pouvaient manger quelque chose. Il y a aussi des amis à Sofia, en Bulgarie, qui disent tout à fait la même chose. Et oui, c'est le paradoxe de l'histoire. On a vu les méfaits d'un système, maintenant on voit les méfaits de l'autre. La différence, c'est que le système soviétique ne régnait pas sur la totalité du monde, alors qu'aujourd'hui, l'idéologie libérale, c'est l'idéologie dominante dans le monde entier, ou dans la plus grande partie du monde, en tout cas.
Oui. Vous dites autre chose. Le problème aujourd'hui, c'est que la démocratie représentative ne représente plus rien.
Oui.
Cette critique centrale du libéralisme n'est pas nouvelle. Elle a été...
Ça remonte à Rousseau.
C'est un rousseauisme. Oui. Mais elle soulève la question, quel autre système de démocratie pourrait prétendre représenter
des sociétés plus directes, des démocraties plus directes. Des démocraties dans lesquelles les gens exercent même le pouvoir, au moins pour ce qui les concerne, hein, c'est-à-dire le mélange de principes de subsidiarité et de démocratie directe.
Qui est réalisé
en Suisse, par exemple. Que voulaient comme en Suisse, avec le référendum d'initiative populaire. Les Gilets jaunes n'étaient pas du tout un mouvement antidémocratique, c'était un mouvement qui voulait plus de démocratie et qui se rendait bien compte que la démocratie représentative et parlementaire est arrivée à un point où la souveraineté parlementaire s'est substituée à la souveraineté populaire. Hein. Ouais. C'est ce que disait Rousseau, le peuple perd sa souveraineté dès lors qu'il la délègue à des représentants qui n'ont pas de compte à lui.
Il est souverain un jour.
Oui, c'est ça, absolument.
Oui, c'est vrai. J'ai vécu pendant quelques années à Genève. Là, j'ai vu les référendums et tout ça. Chaque mois, il y avait deux référendums, au moins.
En France, on cumule les inconvénients des deux systèmes. Les inconvénients de la démocratie libérale où les représentants ne représentent pas, et avec le système jacobin qui décide à la place des gens et à la place des régions et à la place des communes et des villes. On cumule vraiment les deux inconvénients. Donc les gens sont doublement dépossédés. Et comme en plus ils se retrouvent maintenant en état d'insécurité culturelle avec l'immigration et en état d'insécurité sociale en raison de la dégradation des revenus et des modes de vie, et tout cela devient explosif.
Oui, c'est vrai. Une question peut-être un peu plus philosophique, parce que vous êtes philosophe après tout, hein. Une des prouesses du libéralisme est d'avoir neutralisé les aspirations fanatiques des différentes religions en introduisant un mécanisme décisionnaire formel de 51%. Auctoritas non veritas fac legem. On tolère des comportements et des attitudes qui, pour autant, ne sont pas des droits. On tolère, mais ce n'est pas un
Oui,
droit.
Mais ça, c'est une vieille problématique qui remonte historiquement aux guerres de religion.
Oui.
Le libéralisme a été un moyen de sortir du conflit des fanatiques d'un côté et de l'autre.
Oui.
Le problème, c'est qu'il en est sorti en croyant que la meilleure solution était d'adopter une neutralité axiologique, pour prendre le terme philosophique, c'est-à-dire que les pouvoirs publics soient absolument neutres et ne disent rien concernant ce que Aristote appelait la vie bonne, hein, c'est-à-dire le mode de vie, etc. Et on est tombé à ce moment-là dans un autre excès, qui a été d'abord le relativisme généralisé. Hein, toutes les opinions sont bonnes, quelles qu'elles disent. Tout le monde peut faire ce qu'il veut s'il ne nuit pas aux autres. Donc, il est les gens sont libres de se nuire à eux-mêmes. Il n'y a plus de sens de l'excellence de soi, de télos, hein, au sens grec du terme. Ça, c'est le problème de la neutralité axiologique. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a ces débats impossible dans le domaine de la bioéthique, par exemple, où les pouvoirs publics veulent intervenir sans pouvoir s'appuyer sur une conception substantielle du bien, et notamment du bien commun, ou le problème de la laïcité, dans lequel on s'empoigne pour savoir si la laïcité, c'est de reconnaître à égalité toutes les religions, ou de les rabattre sur la sphère privée, etc., avec tous ces débats qui n'en finissent pas, et qui ne débouchent eux aussi sur rien du tout.
Non.
Le crédit qu'on pourrait donner historiquement au libéralisme, d'avoir, comme vous le dites, modéré certains fanatismes, malheureusement, il en a libéré d'autres, hein, parce que le fanatisme de l'idéologie dominante et de la pensée unique et du politiquement correct, c'est aussi un fanatisme. Hein, et le libéralisme, là, ne trouve rien à y redire.
Non. Qu'est-ce que je pourrais encore demander? Peut-être vous pourriez expliquer un peu plus amplement ce qu'est une erreur anthropologique dans le libéralisme.
L'erreur anthropologique, j'ai repris l'expression du théologien et philosophe anglais John Milbank. L'erreur anthropologique, à la base de toute idéologie, vous avez une conception de l'homme. Il y a la conception chrétienne de l'homme, il y a la conception kantienne de l'homme, la conception cartésienne, enfin, etc. etc. Et cette conception de l'homme qui fonde une anthropologie, on en trouve évidemment, il y a une anthropologie libérale. Et l'erreur anthropologique, c'est, à mon sens, c'est de considérer l'homme comme essentiellement mu par l'égoïsme, par la recherche de son meilleur intérêt matériel et son meilleur profit privé. Or, certainement l'une des choses que fait l'homme, mais il ne fait pas que ça. Il est également susceptible, parfois, de donner sa vie pour des choses qui sont immatérielles, qui ne sont pas évaluables en quantité, qui ne sont pas de l'ordre du calculable ou du quantifiable. Et cette façon dont l'individualisme libéral attribue et légitime en même temps une recherche permanente d'enrichissement, de profit, d'augmentation, de toujours plus n'est pas toujours mieux. Donc c'est, je crois, un des points faibles de l'anthropologie libérale, qui est une anthropologie qui mutile finalement
oui.
L'être humain.
De cette façon, c'est... Mais toujours non, mieux,
sûr,
toujours
sûr,
plus,
bien sûr,
c'est impossible.
Et oui, c'est ce que les Grecs appelaient l'hybris, n'est-ce pas,
la
démesure. Et le monde moderne est sur la démesure, il est sur l'illimité. Il n'y a jamais de fin, il n'y a jamais de trop. À une quantité donnée, on peut toujours ajouter une unité supplémentaire, donc toujours plus, toujours plus. Toujours plus, maintenant, ça aboutit à la dévastation du monde, à l'épuisement des réserves naturelles, à la disparition des repères, enfin,
tous
les phénomènes que nous voyons aujourd'hui se développer et qui rendent la société à la fois incompréhensible et intenable.
Ouais. Bon, l'idée de tolérance libérale, c'est une autre question qui m'a été suggérée par un ami philosophe. L'idée de tolérance libérale nécessite que l'individu déboîte, si je peux dire, ses convictions religieuses, ses droits de citoyen. Ce clivage libéral implique donc une verfremdung, potentiellement une non-identité même.
Oui, je pense... Vous savez, la tolérance, en plus, il y aurait beaucoup à dire sur la tolérance libérale, parce que, en réalité, les libéraux ne sont pas tellement, tolérants. Hein. Moi, je ne connais pas de libéral qui considère une proposition antilibérale comme équivalente à une proposition libérale. Hein. Donc, il y a une espèce d'attitude comme ça. Alors, si... là aussi, on remonte à l'Ancien Régime, évidemment. La philosophie des Lumières cherche à déposséder l'Église de son emprise sur les esprits, etc., appelle à plus de tolérance, de libre examen, de libre critique, etc. Moi, je ne suis pas du tout contre cela. Hein. Mais aujourd'hui, on voit bien que dans cette société libérale, jamais l'intolérance n'a été aussi grande. Il suffit de sortir de la pensée unique, de ne pas partager les présupposés de l'idéologie dominante pour qu'on apparaisse comme un hérétique, comme quelqu'un qui est mal pensant, quelqu'un qu'il faut ostraciser, marginaliser.
Ouais.
C'est tout l'équivoque de la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières s'est faite sur l'idée d'émancipation. Et elle a effectivement émancipé les gens d'un certain nombre de contraintes, mais elle les a soumises immédiatement à d'autres formes d'aliénation. Hein. C'est la question qui était posée par les deux grands théoriciens de l'école de Francfort, Max Horkheimer et Théodore Adorno. Pourquoi est-ce que la modernité n'a pas tenu ses promesses? Voilà.
Oui, parce que c'était impossible.
Voilà.
Bon, je crois que... vois qu'on a déjà 40 minutes.
Oui, je crois que c'est bien.
Oui.
Ouais, de toute façon, vous savez, si vous voulez rajouter quelque chose, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et puis moi je vous fais une réponse écrite.
Ou si vous voulez ajouter quelque chose que j'ai oublié de vous demander.
Non, parce que à la limite, on peut parler de tout.
Oui.
Hein.
Oui.
Tout est intéressant. Et plus, dans une interview, je pense que quand on parle trop de choses différentes, les gens ne voient plus les points essentiels. Et il vaut mieux prendre un sujet, puis une autre fois, on prend un autre sujet.
Donc, j'arrête.
On arrête.
On arrête. Voilà.